Chapitre 2e. C'était une véritable fête pour la petite ville de Rambouillet que l'époque des chasses royales. Le château et les deux ou trois auberges de la Grand-Rue, ne pouvant contenir toute la suite de leur majesté et des princes, les bourgeois, afin de faire un commerce qui leur fût profitable, avaient grand soin de tenir à la disposition des dames et des seigneurs la chambre d'honneur de leur maison. Le prix en était exorbitant, mais on y regardait guère, et il est notoire qu'il entrait plus d'argent dans la capitale du pays de Hurepoix pendant le peu de temps qui séjournait la cour que pendant tout le reste de l'année. C'était aussi le moment où les femmes et les filles se paraient de leurs plus beaux atours, et bien que, d'après la chronique citée plus haut, les faits passés prouvassent qu'il n'y avait matière à gloser sur le chapitre de ces dames, toujours était-il que la présence de messieurs les pages et autres officiers du roi faisait sortir des armoires les robes de soie, les fines dentelles et les mules les plus coquettes. Mais si l'annonce d'une grande partie de chasse mettait en émoi les habitants de Rambouillet, c'était encore une bien autre affaire parmi les hôtes de la forêt où, dès 8 jours à l'avance, bêtes et gens étaient sur pied d'une aurore à l'autre. On commençait les battues, on faisait le nez aux meutes, les armes, les épieux étaient nettoyés, aiguisés, les uniformes de luxe brossés, réparés. C'était à qui, depuis le plus simple piqueur jusqu'au grand veneur, rivaliserait de zèle pour obtenir un mot d'approbation du maître. Or, au moment dont nous parlons, le roi, la reine et les princes étaient attendus à Rambouillet. Germain, on se l'imagine bien, n'avait pas été un des derniers à faire ses préparatifs. Quoiqu'en raison de l'état de sa femme, ses chefs eussent offert aux gardes la permission de rester chez lui, il avait refusé avec persistance, demandant même comme une faveur de faire nombre avec ceux de ses camarades désignés pour accompagner le roi. La cour arriva par une belle soirée de septembre. Ce jour-là, il n'y eut aucune fête au château. Marie-Antoinette quitta son cercle de bonheur. On devait entrer en chasse le lendemain de la pointe du jour. Il fallait être fraîche et reposée par une bonne nuit. « Mesdames, priez Dieu qu'il nous envoie un beau soleil, » avait dit la reine. Le soleil sortit de son lit de vapeur, brillant et radieux, faisant ruisseler sur le bois et la plaine, humide de rosée, une nappe d'or et de rubis. Comme nous n'avons pas l'intention de décrire ici le spectacle d'une chasse royale, sujet que des plumes plus habiles que la nôtre ont maintes fois esquissé, nous dirons simplement que le matin dont il est question, la cour du château de Rambouillet offrait un assemblage magique de gens, de chevaux, d'équipages, d'uniformes, de panaches blancs, le tout s'agitant en 1000 sens divers, au bruit des fanfares, des cris des piqueurs, de l'aboiement des chiens. Bientôt le roi, qui ne se faisait jamais attendre, donna le signal du départ. La reine, les dames de la cour suivaient en voiture, et ce n'était pas la partie la moins gracieuse du cortège que cet essaim de femmes, presque toutes jeunes et belles comme leur souveraine, costumées uniformément selon l'usage de l'étiquette d'alors. Mais laissons la chasse royale, sa grandeur et ses péripéties, et arrivons au fait important qui en résulta pour les héros de notre histoire. La matinée avait été aussi productive qu'animée. Cerfs forcés, sangliers éventrés, lièvres, lapins couchés à terre, rien ne manquait au triomphe des chasseurs. On devait déjeuner dans un carrefour du bois où tous les préparatifs nécessaires à un repas royal en plein air avaient été faits dès la veille. Pendant les 2 heures de répit que le déjeuner laissait aux gens de la suite, Germain, qui depuis le matin paraissait livré à une violente agitation, se trouva posté en un lieu assez rapproché de son habitation. L'envie lui prit d'aller voir si rien de nouveau ou de fâcheux n'était survenu en son absence. Laissant au pied d'un arbre, sous la surveillance de ses chiens, son bagage de garde et ne conservant que son fusil, il se dirigea d'un pas ferme et agile vers la tour aux Belles. Mais à mesure qu'il approchait du but de son voyage, la marche de Germain se ralentissait. Ses jambes paraissaient fléchir sous le poids de son corps. La force semblait lui manquer pour avancer. De grosses gouttes de sueur coulaient sur son front et de temps en temps, un gémissement plaintif sortait de sa poitrine. Encore un taillis à traverser et le garde allait arriver chez lui lorsque, cédant tout à coup à la fatigue ou à l'émotion, il s'assit au bord d'un fossé servant de bornage à un étroit sentier qui s'étendait dans l'intérieur du bois. Là, comme saisi d'un profond découragement, il laissa tomber sa tête sur sa poitrine en murmurant « Mon Dieu, J'avais pourtant bien espéré que ce serait pour aujourd'hui. » Il achevait ses paroles quand une main, frappant son épaule, vint le tirer de son abattement. Pris ainsi à l'improviste, Germain fit un sursaut, se retourna, mais à peine avait-il entrevu son interrupteur qu'en une seconde, il était sur pied dans la pose la plus respectueuse. « Monseigneur, » s'écria-t-il, il était devant le monsieur le comte d'Artois. « Ah, tu as eu peur, sans peur, » dit le prince en riant. Germain balbutia une humble excuse. « Allons, viens avec moi, » continua le prince. « Je me suis, sans m'en apercevoir, éloigné de la chasse. Puis, quand j'ai vu l'heure avancer, voulant arriver au rendez-vous, j'ai cru prendre le chemin le plus court et je me suis perdu dans la forêt. Pour comble de malheur, mon cheval, que je pressais de l'éperon, est tombé les deux jambes de devant dans une fondrière d'où je n'ai jamais pu le retirer. J'ai donc besoin de ton aide. » En disant ces mots, le prince reprit le chemin qu'il venait de quitter. Germain se mit à sa suite en silence, mais non sans retourner plusieurs fois la tête pour regarder les pierres blanches de la tour qu'on entrevoyait à travers le feuillage. Pourtant, les yeux du garde n'exprimaient plus autant de tristesse. Il y avait près d'un quart de lieue à faire pour arriver à l'endroit où le cheval du prince se trouvait en si mauvaise position. Monseigneur le comte d'Artois n'était pas de nature à cheminer si longtemps en tête-à-tête, même avec un subalterne, sans entamer la conversation. D'ailleurs, de tous les gardes de la forêt, Germain était celui qu'il connaissait le mieux et auquel il portait le plus d'intérêt. Quand son Altesse venait incognito à Rambouillet, chassé, ainsi qu'elle le disait elle-même, en braconnier, c'était toujours Germain qu'elle faisait appeler pour l'accompagner. Sa bonne tenue, son zèle, ses façons bien au-dessus de celles de ses pareils, son courage éprouvé, lui avaient attiré toute la bienveillance du jeune prince. Ils avaient à peine, maître et serviteur, fait quelques pas dans l'intérieur du bois, que le royal compagnon de Germain, l'interpellant avec bonté, « Je serais en vérité curieux de savoir, mon brave sans peur, ce que tu faisais assis au bord de ce fossé, pensif comme un savant qui cherche un problème. »« Monseigneur, je songeais, » répondit le garde avec émotion. « Tu songeais, toi, et à quoi, je te prie ?»« À ma femme, monseigneur, à ma pauvre femme, » qui peut-être, à l'heure qu'il est, met au monde notre sixième enfant. Des filles ? Non, monseigneur, des garçons. Tant mieux, s'écria le prince. Nous en ferons des soldats pour mon frère, et ce seront de courageux gaillards s'ils ressemblent à leur père. Ah, monseigneur, ils ont été recrutés par un sergent plus pressé que ceux du roi, dit Germain d'une voix concentrée. Que veux-tu dire ? La mort me les a tous pris, monseigneur. L'accent déchirant avec lequel ce peu de mots fut prononcé arrêta court la marche du prince. « C'est affreux ce que tu me dis là » s'écria-t-il en se retournant vers Germain. « Que voulez-vous, monseigneur ? C'est la volonté de Dieu, » reprit le garde, cherchant à maîtriser ses pénibles impressions. « Comment ? Il n'y a eu aucun moyen de sauver ses enfants ?»« Aucun, monseigneur. La mère et moi, nous n'avons rien épargné. Allez, tous les médecins du pays y ont passé. »« C'est qu'ils n'y entendent rien. Je t'enverrai le mien. » « Il doit y avoir un remède. »« Ah, monseigneur !» répliqua Germain, en appelant à lui toutes ses douleurs de père afin de fortifier son courage. « Si j'osais dire à votre Altesse royale... »« Parle, parle. On nous a bien indiqué un remède, mais... »« Mais il est trop cher pour de pauvres gens comme vous, n'est-ce pas ?» s'empressa de dire le prince avec feu. « Écoute, Germain. Viens ce soir me trouver après la chasse, et quelle que soit la somme demandée pour guérir ton enfant, tu l'auras. Monseigneur !» « Vous parlez comme le bon Dieu, » dit le garde, « mais pour notre malheur, il n'est ni or ni argent qui puisse payer ce remède. »« Comment cela ?»« Oh, je n'oserais jamais compter à votre Altesse royale comment l'ordonnance du médecin nous est arrivée, » répondit Germain, tremblant de crainte et d'espoir. « Et moi, je veux le savoir. Allons, conte ton histoire, tout en marchant, mon brave, car mon cheval et le déjeuner m'attendent. » Le garde ne se le fit pas dire deux fois, et en termes simples, mais expressifs, se mit à narrer l'épisode du pèlerinage à Saint-Antoine avec toutes ses conséquences. Ce ne fut pas cependant sans s'interrompre maintes et maintes fois que le pauvre homme arriva à la fin de son récit. Au dernier mot, sa voix expirait dans sa gorge. « Console-toi, mon bon sans-peur, » s'écria le prince. « Je me charge de décider ma sœur, et c'est moi qui serai le parrain. » Le soir de ce jour, quand Germain rentra chez lui, il aperçut dès le seuil de la porte Simone qui, du lit où elle était couchée, lui montrait le petit berceau placé près de son chevet. un sixième fils leur était né. « Puisses-tu être béni, toi ? » s'écria le garde en étendant sa main sur la tête de son enfant. « Ta marraine se nomme la reine de France. »